Cours d'archéologie anthropocénique. Premier semestre. Attention, toute reproduction complète ou partielle des cours des professeurs de l'université Alain Minc n'est exclusivement autorisée qu'à ses étudiants et anciens diplômés. Toute reproduction illégale est susceptible de poursuite. La peine encourue est l'effacement.
Chers élèves, le cours d'aujourd'hui portera sur les données. En effet, nous historiens, nous basons sur les données. Nous rassemblons les données, analysons son auteur et les remettons dans son contexte. Nous les croisons avec d'autres données d'autres sources pour obtenir une histoire du monde à un moment donné. Sans jamais oublier que l'interprétation finale de ces données dépend de l'œil de celui qui les traite.
Pas si vite, je suis qu'aux sixièmes données.
Les premières données que nous avons de l'être humain datent de la préhistoire. Ce sont notamment les peintures rupestres et les objets en silex grossièrement taillés. Puis vient la première révolution du langage, l'écriture. Ainsi, les premiers parchemins firent leur apparition. En babylonien, en assyrien, araméen ou hiéroglyphe, l'homme se mettait à écrire et par là même produisit ses premières données pérennes dans le temps. Nous pouvons ainsi retracer le quotidien de certaines populations, leurs récoltes, leur système hiérarchique et surtout leur mythe religieux. Avec le développement des manuscrits et des métiers de scribe ou de copiste, on vit l'essor des bibliothèques et des archives comme lieu de stockage privilégié des données. La deuxième révolution du langage fut l'invention de l'imprimerie. Avec elle, les données imprimées purent facilement être dupliquées et circulées à l'échelle des continents en un temps record. L'archivage fut rendu plus facile, les bibliothèques devenant de plus en plus grandes et fournies en ouvrages et données du monde entier. La troisième révolution fut l'invention de l'informatique et d'Internet. Grâce au traitement de texte, l'écrit se fit électronique. Et grâce à Internet, ces textes purent circuler dans le monde entier à une vitesse quasi instantanée. Mais surtout, l'informatique est un monde de données. Tout ce qui existe est une donnée, une suite de 0 et de 1 qui ont forcément un sens. Ainsi, les tableurs et les bases de données permirent de stocker des données dans une logique humaine et de permettre leur traitement par une logique informatique. La puissance brute de calcul des ordinateurs s'ouvrait au monde humain. C'est ainsi que le 21e siècle numérisa toutes ces données. Revenus, dépenses, courriers, journaux, ressources naturelles, cartes du monde, tout devait rentrer dans la machine, tout devait exister sous forme de données. C'est ainsi que tout fut quantifié, comparé, stocké, y compris des notions comme l'amour ou le bonheur. Ainsi, le Bhoutan développa le bonheur intérieur brut, une donnée qui devait permettre de mesurer le bonheur de ses habitants. Ce pays obtenant d'ailleurs une valeur élevée malgré le chômage et la corruption grandissante à cette époque. Mais nous l'avons dit en introduction, toute donnée doit être analysée à la lumière de son émetteur, remise dans son contexte et croisée avec d'autres données. Les dérives de l'usage des données ont commencé à se voir dans les entreprises, quand elles ont essayé d'objectifier le travail et ont demandé à tous leurs services internes de produire et de remonter des données afin de calculer la productivité. Ainsi, les sociétés commerciales n'étaient plus dirigées par des directions, mais par des statisticiens accrochés à leur tableau croisé Excel, travaillant sur des données non fiables car produites par un émetteur trop concerné, un salarié ou un cadre craignant de perdre sa place, des données sorties de leur contexte car remontées trop haut dans la hiérarchie et impossibles à croiser car appartenant à un univers clos en silo. Quant à l'œil de celui qui traite les données, c'est bien sûr celui du DRH, toujours à l'affût de pouvoir rationaliser les effectifs de la société, comprenez, mettre en difficulté aussi bien ceux qui partent que ceux qui restent. Car comme disait le grand philosophe français Bernard-Henri Lévy, la raison du truqueur est toujours la meilleure. C'est à cette époque, au début du XXIe siècle, que naquit une pratique du data journalist, le fact-checking. À grand renfort de données, certains journalistes se mirent en tête de jouer les redresseurs de tort en politique. Mais s'il est facile de rappeler à un élu politique ses promesses de campagne tenues ou non, le reste est moins évident. Certes, il y a besoin de chiffres pour gouverner. C'est ainsi que toutes les facettes de notre vie sont quantifiées, qualifiées, questionnées au travers de sondages. Mais ces données sont imparfaites, car leurs émetteurs, autant que leur contexte, sont discutables, tout autant que la possibilité ou l'impossibilité de les croiser, ou encore l'œil de celui qui les analyse. Prenons par exemple les chiffres du chômage. Ils sont émis par Pôle emploi, qui a pour mission d'avoir le moins de chômeurs possible, et qui a la capacité d'accepter ou de résilier ces chômeurs. Dès lors, comment se fier à ces chiffres sans les croiser avec ceux des chômeurs non inscrits ou encore celui des emplois précaires ? Dès lors, il fut monnaie courante de voir les politiques contester les fact-checking avec plus ou moins de brio et des arguments plus ou moins bons. Car la politique reste ce qu'elle est, une divergence d'opinion sur la manière de diriger un pays, et s'il suffisait d'analyser des données pour vérifier la probité d'un gouvernement, nous serions déjà gouvernés par des ordinateurs.